9h-10h, France Bleu Champagne Ardennes, les experts.
En France, 150 000 personnes vivent avec le VIH et il y a en moyenne 6 000 nouvelles infections chaque année. À la veille du week-end du site d'action, on en parle ensemble et on répond bien sûr à toutes vos questions. 03 26 50 81 81. Avec nous, Florence Thun du site d'action. Bonjour Florence.
Bonjour.
Et parmi tous les chiffres que j'ai donnés, il y en a un autre impressionnant, c'est qu'il y aurait en ce moment en France 25 000 personnes porteuses du VIH sans le savoir. C'est le chiffre que vous avancez pour SIDAction. Comment vous estimez ce chiffre de 25 000 personnes ?
Alors, ce sont effectivement des chiffres, c'est ce qu'on appelle l'épidémie cachée. Ce sont des chiffres qui sont donnés par les épidémiologistes qui travaillent au niveau national sur l'estimation du nombre de personnes vivant avec le VIH. Ce sont en fait des calculs mathématiques qui permettent à ces épidémiologistes de fournir ces chiffres de manière générale. Donc effectivement, ce sont 25 000 personnes parmi les 150 000 qui vivent aujourd'hui avec le VIH, qui donc ignorent leur séropositivité.
Alors, il y a des femmes, il y a des hommes, et il y a aussi des seniors qui représentent une part assez importante. Près de 20% des nouveaux détectés séropositifs ont plus de 50 ans.
Oui, tout à fait. Alors, on a beaucoup parlé des jeunes, et c'est effectivement important. Il y a aussi trop de jeunes qui se contaminent, mais on oublie souvent, effectivement, les seniors, en tout cas les personnes de plus de 50 ans, dont on parle moins, qui parfois se sentent moins concernées. Et effectivement, on voit ces chiffres qu'il est important de garder en tête pour se rappeler que tout le monde est concerné.
Qu'est-ce qui pourrait expliquer cette augmentation et cette part importante, presque un quart, en fait, de personnes de nouveau infectées ont plus de 50 ans? C'est quoi? C'est l'infidélité? C'est le fait qu'à 40, 50 ans, parfois, on a un nouveau partenaire, on a une nouvelle vie sentimentale, une nouvelle jeunesse, ou alors cette sensibilisation au préservatif qui est peut-être moins présente chez les seniors?
Oui, effectivement, on a pas mal de raisons en fait pour expliquer tout ça, à la fois parce que de manière globale, et ça ne concerne pas que les seniors, mais en tout cas on parle moins du VIH, donc on se sent moins concerné, on se dit que ça n'arrive qu'aux autres. On a aussi, au fur et à mesure des années qui passent, effectivement plus de personnes qui, à partir de 50 ans, parfois recommencent une nouvelle relation, donc font confiance dans l'autre personne, estiment que finalement à partir de 50 ans on est moins concerné. Donc effectivement, on a un relâchement aussi. On a beaucoup parlé, sur le relâchement chez les jeunes, mais on a aussi un relâchement quand on devient plus âgé, peut-être plus insouciant. Donc on retrouve ça. Oui.
Quelle est la différence, parce qu'il y a beaucoup de termes, la différence entre être porteur du VIH, entre avoir le SIDA, entre être séropositif? Il y a des subtilités entre tout ça.
Oui, il y a une grande subtilité, parce qu'effectivement, quand on est contaminé par le VIH, on dit effectivement qu'on est porteur du VIH, qu'on vit avec le VIH. Donc quand on dit vivre avec le VIH, c'est équivalent à dire être séropositif. Donc c'est vraiment porter le virus du VIH. En revanche, être malade du SIDA, c'est avoir développé toute une série d'infections, de maladies opportunistes. Quand on n'a pas eu accès au traitement, les défenses immunitaires tombent, effectivement, et donc on développe une série de maladies où là, on passe ce qu'on appelle en stade SIDA. Donc c'est vraiment très différent. Quand on vit avec le VIH, on n'est pas nécessairement et heureusement malade du SIDA, notamment quand on prend des trithérapies, en tout cas les médicaments qui permettent de survivre au VIH.
Alors il y a des endroits de dépistage un petit peu partout dans la région. Ce sont des centres gratuits de dépistage. Ça s'appelle les Cégides.
Oui, tout à fait. Voilà, ce sont les personnes de ma génération connaissaient les CDAG, les centres de dépistage anonymes et gratuits. Maintenant, donc, on a les Cégides, qui sont des centres gratuits d'information, de diagnostic et de dépistage, qui non seulement proposent une offre de dépistage sur le VIH, mais aussi des autres infections sexuellement transmissibles, puisque c'est important de rappeler qu'on a aussi de l'augmentation d'autres IST type gonocoque et autres, que ce soit pour les jeunes hommes ou les jeunes filles. Et puis aussi qui parle de sexualité, de santé sexuelle de manière générale.
Alors c'est à Cégide, dans la région, ces centres de dépistage gratuits, il y en a un petit peu partout. À Reims, Épernay, Sainte-Menou, Châlons-en-Champagne, Troyes, Charleville-Mézières, Fumet, Sedan, Chaumont, Saint-Dizier ou encore Langres. Et puis sinon, une simple prescription de prise de sang chez son médecin généraliste, c'est remboursé et ça marche aussi.
Oui, tout à fait. Hein, c'est les possibilités de faire un test de dépistage sont assez nombreuses entre effectivement le médecin, l'accès au Cégide, et puis rappeler aussi parce que on a fait un sondage récemment que on a vu que plus de la moitié des Français ne effectivement étaient pas informés hein, sur les possibilités de dépistage. Il y a aussi des autotests qui sont vendus en pharmacie, qui sont peu connus et qui sont malheureusement un peu chers, mais qui sont en tout cas maintenant disponibles sur le marché.
On aura l'occasion d'en reparler. En tout cas, d'accord, l'un des objectifs, c'est de réduire hein, ce chiffre impressionnant de 25 000 personnes qui seraient porteuses du VIH en France sans le savoir. Et quand on ne sait pas, c'est là qu'on est le plus contagieux. C'est ce qu'on va voir dans la deuxième partie de l'émission, juste après Amir sur France Bleu. Émission spéciale SIDAction. Et bien sûr, toutes vos questions sont les bienvenues. 03 26 50 81 81.
Un jour je suis la proie, un jour j'ai chaud au cœur, un jour j'ai tellement froid. Parfois je ne vois plus clair, le miroir me déforme, je me lève sans lumière et mes rêves s'endorment. Qui fait son cinéma, un jour c'est le destin qui tient la caméra. Mon esprit solitaire se perd au fond des bois. Je vois le monde à l'envers, mes rêves sont à l'étroit. Plonge au cœur de moi, au fond de mes racines, personne ne le voit.
Le tout nouveau titre d'Amir. Le SIDAction, c'est ce week-end. Bien sûr, vous pourrez faire vos promesses de dons au 110 ou encore sur sidaction.org. Il y aura même la possibilité cette année par SMS. On aura l'occasion de vous en parler. Nous sommes avec Florence Thune du SIDAction pour répondre à toutes vos questions. 03 26 50 81 81. On rappelle qu'en France, il y a 150 000 personnes qui vivent avec le VIH, dont une estimation de 25 000 personnes qui l'ont sans le savoir, parce que Florence Thune, il n'y a pas de symptômes physiquement si on est porteur du VIH, on ne le sent pas et on ne peut ne pas le sentir pendant plusieurs années.
Oui, tout à fait. On peut être contaminé par le VIH. Alors, parfois, au tout début de la contamination, on a quelques symptômes qui ressemblent un peu à la grippe, mais effectivement, qui peuvent passer inaperçus de manière générale. Et puis, une fois qu'on est contaminé par le VIH, on peut effectivement rester plusieurs années sans symptômes. Donc, effectivement, ne pas savoir qu'on peut avoir un souci et avoir été contaminé par le VIH.
Un chiffre impressionnant aussi, parce qu'on a fait tout à l'heure la différence entre VIH et SIDA. Eh bien, un quart arrive trop tard au dépistage et ont déjà le SIDA, donc on peut estimer qu'ils étaient porteurs depuis plusieurs années.
Oui, tout à fait. Ça, c'est vraiment un chiffre qui reste inquiétant, hein, au-delà du nombre de contaminations qui demeurent chaque année. On a effectivement un quart, un petit peu plus d'un quart de ces personnes qui arrivent déjà, ce qu'on appelle en stade avancé ou au stade SIDA. Donc leur immunité est très faible. Ce sont des personnes donc qui ont déjà développé des maladies, ce qu'on appelle des maladies opportunistes, mais qui ont échappé à la vigilance ou du médecin et qui n'a pas su à ce moment-là proposer un test à temps. Et donc qui arrivent effectivement déjà tard, et ce qui est aussi un pronostic négatif hein, pour l'espérance de vie, parce que plus on arrive tard au dépistage et plus on commence les traitements tard, plus c'est inquiétant pour l'espérance de vie de manière générale.
On a une question de Martine de Rethel. Est-il vrai qu'une personne porteuse du VIH et qui est sous traitement n'est pas contagieuse lors de rapports non protégés ?
Oui, tout à fait. Alors là, c'est l'immense progrès hein, qui a été apporté par les traitements, qui a été démontré par plusieurs études scientifiques au cours de ces dernières années. Une personne qui est sous traitement, qui suit correctement son traitement, a une charge virale indétectable. C'est-à-dire qu'elle a vraiment une quantité très très petite de virus dans le corps. Et en fait, en ayant une charge virale indétectable, une personne vivant avec le VIH ne peut pas contaminer son partenaire, effectivement.
C'est impressionnant, ça, comme avancée technique. Ça, peu de gens le savent. Mais du coup, ça veut dire que parmi les 25 000 personnes qui s'ignorent, là, vu qu'elles sont pas sous traitement, elles sont contagieuses. On peut les qualifier de bombes humaines, limite.
Alors, c'est là effectivement tout l'enjeu hein, de vraiment d'inciter sur l'accès au dépistage. C'est-à-dire que les personnes qui aujourd'hui transmettent le virus sont les personnes qui ne connaissent pas leur statut. Les personnes qui connaissent leur séropositivité sont effectivement très rapidement sous traitement et ne peuvent plus contaminer d'autres personnes. Donc ça, c'est vraiment important de le savoir, d'où l'importance de l'accès au dépistage.
Quand on regarde les chiffres chez nous en Champagne-Ardenne, ils sont impressionnants parce qu'il y a une forte augmentation de personnes contaminées entre 2010 et 2015, plus 54% de nouvelles contaminations.
Oui, effectivement, c'est un chiffre assez notable en fait sur la comparaison entre les régions, mais on peut voir qu'il y a une augmentation du nombre de personnes qui ont découvert leur séropositivité depuis les 5 dernières années dans la région. Donc on peut se dire à la fois qu'il y a peut-être un relâchement sur la prévention, à la fois, si on voit les choses de manière positive, qu'il y a plus de personnes qui sont allées se faire dépister. Donc on peut expliquer ça effectivement par deux façons. Oui.
En chiffres, ça donne en 2010, il y avait en moyenne 110 personnes hein, qui découvraient leur séropositivité en Champagne-Ardenne par an. Aujourd'hui, on est plus autour de 175. Ouais. On rappelle les endroits pour faire des dépistages gratuits, donc sur simple ordonnance par rapport à votre médecin généraliste et dans les laboratoires de la région. Puis aussi des centres gratuits de dépistage, en général dans les hôpitaux, hein, ce qu'on appelle les Cégides. Il y en a à Reims, à Épernay, à Sainte-Menou, à Chalon, à Troyes, à Charleville, à Fumay, à Sedan, à Chaumont, Saint-Dizier et Langres. On va aussi parler des discriminations et puis des idées reçues, parce qu'il y en a beaucoup autour du VIH, autour du SIDA. C'est dans la troisième partie de ce rendez-vous, les experts avec Florence Thune du SIDAction. Posez-lui toutes vos questions 03 26 50 81 81.
Je n'ai pas encore dormi.
Niagara sur France Bleu quand la ville dort.
Jusqu'à 10h, France Bleu Champagne Ardennes, les experts.
Chaque année en France, 6000 nouvelles infections au VIH et notamment chez les plus de 50 ans qui représentent près de 20% des nouveaux infectés. On en parle ensemble et on répond à vos questions à la veille du week-end du SIDAction avec Florence Thune du SIDAction. Florence, on peut aussi noter dans les comportements l'abandon du préservatif trop tôt, c'est-à-dire que la plupart des gens pensent au préservatif lors du premier rapport ou des premiers rapports et ensuite laissent tomber un peu trop rapidement par rapport à ce qu'on devrait faire.
Effectivement, c'est ce qu'on a noté dans les différentes études, c'est que durant les dernières 20 dernières années, évidemment, il y a plutôt une augmentation de l'utilisation du préservatif au cours du premier rapport, hein, notamment pour les plus jeunes. En revanche, ce qu'on retrouve, c'est un abandon trop tôt du préservatif, c'est-à-dire que les personnes finalement estiment qu'ils ont confiance l'une dans l'autre et abandonnent le préservatif avant d'aller faire un test de dépistage. Et donc là, on revient sur la question de connaître son statut et d'aller faire un test. Et ça, on le retrouve que ce soit chez les plus jeunes ou les plus âgés.
Alors, il y a des centres de dépistage dans la région, on les a cités précédemment. Puis il y a aussi une nouveauté, c'est l'autotest qu'on achète comme ça, sans ordonnance, en pharmacie, mais du coup, c'est pas remboursé?
Oui, tout à fait. Alors, c'est disponible depuis un peu plus d'un an en pharmacie. C'est un test que vous pouvez acheter sans ordonnance, effectivement, en allant dans une pharmacie, que vous pouvez faire chez vous. Mais le souci principal, c'est que c'est un autotest qui reste encore cher, hein, puisque il est vendu, alors selon les pharmacies, aux alentours de 25 euros. Et c'est pour l'instant le principal obstacle. Hein. Il y en a eu environ 90 000 qui ont été vendus l'année dernière. On aimerait qu'il y ait une baisse des prix, évidemment, pour favoriser la diffusion de cet autotest.
Autotest, donc, disponible en pharmacie au prix de 25 euros. Ça fonctionne sur le principe comme les diabétiques qui se piquent le bout du doigt avec une seule petite goutte de sang qui nous donne le résultat immédiatement.
Oui, tout à fait. Oui, c'est vous avez le résultat en quelques minutes. Bien sûr, en cas de test positif, il faut aller aussitôt chez son médecin et le faire confirmer ou dans un Cegid pour confirmer le test. Et même en cas de test négatif, pensez à en refaire un dans les 3 mois qui suivent en cas de rapport à risque. Rappelez aussi qu'en cas de rapport à risque, il faut aller aux urgences puisqu'il y a le traitement post-exposition qui est aussi disponible.
Très bien. Alors, vous avez parlé d'un délai de 3 mois. Qu'est-ce que c'est que ce délai de 3 mois? Il faut impérativement se faire tester 2 fois à intervalle de 3 mois pour être sûr et certain?
Alors, en tout cas, en cas de si vous pensez qu'effectivement il y a eu un risque qui a été pris, si le test est négatif, ça ne veut pas forcément dire que vous n'avez pas été contaminé par le VIH, parce que c'est ce qu'on appelle, on a une période de séroconversion. Il y a entre le moment où le virus rentre dans le corps et où il est effectivement détectable par le test de dépistage, il y a toujours ce délai. Alors, on améliore ces délais, hein, avec la technicité des tests qui s'améliorent, mais malgré tout, il faut rester prudent et effectivement refaire un test 3 mois après si effectivement il y a une prise de risque.
On parlait il y a quelques années beaucoup, beaucoup du VIH et du sida comme des maladies spécifiques aux homosexuels. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il en est? La majorité des contaminés sont des homos ou des hétéros?
Alors, sur les 6000 découvertes de séropositivité l'année dernière, il y a 42% de personnes homosexuelles et 57% de personnes hétérosexuelles. La différence, c'est les personnes usagères de drogue. Donc effectivement, on reste sur une majorité de personnes hétérosexuelles, mais on a aussi un chiffre important parmi les personnes homosexuelles. Donc ça, c'est une attention particulière, avec l'importance d'avoir des campagnes de prévention qui sont ciblées sur les personnes qui éventuellement seraient plus exposés au risque de contamination.
Cette année, on l'a vu, cette campagne, elle a été décriée. Il y a certains maires de France qui ont décidé d'enlever les affiches malgré cet intérêt de santé publique. Ça vous a choqué, ça, au SIDAction?
Oui, tout à fait. On a été effectivement désagréablement surpris par les réactions de certains maires qui effectivement ont souhaité enlever les affiches. On reste sur le tabou et le rejet de l'homosexualité, hein, parce qu'on montrait des couples d'hommes. Et on a été très déçus du fait que cela attire finalement plus le regard sur la question de l'homosexualité que sur la question de la prévention sida, puisque c'était une campagne de sensibilisation sur la question du VIH et non pas sur la question de l'homosexualité, évidemment.
On va continuer de parler de la recherche recherches et des perspectives, parce qu'il y a de belles choses quand même, hein, il faut rester vigilant, mais il y a de belles choses grâce à nos scientifiques, notamment a priori des femmes porteuses du VIH qui peuvent être enceintes tout à fait normalement sans transmettre ce VIH à l'enfant. On va voir ça en détail juste après les Innocents qui arrivent dans les toutes prochaines secondes sur France Bleu avec Color.
France Bleu.
Avec France Bleu Champagne Ardennes, gagnez les plus beaux spectacles. Le 6 avril, Hit Parade. Claude François, Dalida, Mike Brandt, Sacha Distel en hologramme, entouré de vrais musiciens, de danseurs et de comédiens.
Qu'est-ce qu'on a fait les tuyaux ?
Hit Parade, une histoire émouvante et drôle portée par 14 hits incontournables. Jeudi 6 avril, 20h30, au Millésium à Épernay. Pour gagner vos invitations, gardez l'écoute.
Emma, elle dort au jardin, elle est bien. Emma, elle dort au jardin, c'est le bonheur. Le jardinier a tout refait. Le jardinier est trop fort.
Un message des professionnels du végétal, des arbres, des plantes, des fleurs.
C'est la quinzaine du camping-car.
Tu sais, pour profiter à fond des week-ends prolongés, on pourrait s'acheter un fourgon aménagé.
Tu veux dire un van ?
Bah oui, c'est ça. Un camping-car, mais en plus petit, maniable et discret. C'est génial.
Super idée. Justement, c'est la quinzaine du camping-car à partir du 11 mars.
Ah, à nous le grand air.
Et oui, jusqu'au 25 mars, c'est la quinzaine du camping-car chez votre concessionnaire. Vous êtes sûr d'y trouver le fourgon aménagé qui correspond exactement à vos besoins. Liste des distributeurs participants sur quinzainecampingcar.com.
Sur France Bleu Color. Le week-end du Sidaction, ça commence demain, ça sera donc vendredi, samedi et dimanche avec les dons qui sont importants au 110 ou encore sur sidaction.org. Nous sommes avec Florence Thune du Sidaction et il y a pas mal d'idées reçues, hein, Florence. Il n'y a pas longtemps, je parlais avec un jeune de 17 ans qui pensait sérieusement qu'on pouvait aujourd'hui guérir du sida comme on guérit d'un rhume, d'une gastro ou d'une grippe. C'est faux, hein?
Oui, c'est faux. effectivement, on ne peut pas guérir du sida, malheureusement. On a effectivement eu un sondage hein, qui montrait que 22% des Français pensaient qu'il existait des médicaments pour guérir du sida. Et non, on ne guérit pas du sida, on prend des médicaments à vie pour vivre avec le VIH.
Il y a aussi d'autres idées reçues sur le mode de contamination. Si on devait faire la liste des choses qu'on peut faire sans risque d'être contaminé, qu'est-ce qu'on trouve encore une fois, pour démonter les idées reçues.
Ben effectivement, on peut avoir des rapports sexuels avec une personne séropositive ou non et se protéger, hein, effectivement, avec un préservatif. Donc de toute façon, le préservatif reste l'outil le plus efficace en termes de pour se protéger du VIH. Et puis on a montré, effectivement, on en a parlé tout à l'heure, hein, que les traitements aussi empêchent la contamination. Donc ça, c'est un vrai progrès aussi.
En ce qui concerne les moustiques, le fait d'embrasser, le risque est de zéro.
C'est ça, zéro. La transmission par les moustiques n'existe pas. On n'est pas contaminé par le VIH en embrassant une personne séropositive, en étant en contact avec la transpiration d'une personne séropositive. Je reprends ces éléments parce que ce sont effectivement des proportions importantes de personnes interrogées dans le sondage qui pensent qu'effectivement on peut être contaminé par la transpiration en mangeant dans la même assiette. Enfin, on revient sur des idées fausses qu'on croyait malheureusement avoir disparu.
Une question de Anne de Reims. La fellation sans préservatif est-elle une pratique à risque ?
Alors, on estime qu'il y a effectivement un peu moins de risque, mais malgré tout, on insiste sur le fait que même s'il n'y a pas éjaculation, il y a du liquide préséminal qui peut être un risque et qui peut contenir du VIH, du virus. Donc effectivement, ça reste un risque. Et quand vous ne connaissez pas le statut de votre partenaire sexuel, quoi qu'il arrive, on prend un préservatif.
03 26 50 81 81. Je vous rappelle que cette émission est la vôtre, comme Anne, comme Martine récemment. Vous pouvez continuer de poser vos questions. 03 26 50 81 81. La recherche, elle en est où aujourd'hui, notamment en vue d'un éventuel vaccin?
Alors, au niveau d'un éventuel vaccin, effectivement, on parlait d'éventualité, c'est une recherche qui est compliquée. Le virus est un virus qui mute beaucoup, donc c'est effectivement difficile de travailler et de trouver un vaccin. Des recherches sont en cours, notamment en Afrique du Sud. Il y a une grande recherche qui a commencé l'année dernière et qui devrait avoir ses premiers résultats en 2020, en 2021. Donc vous voyez, on est vraiment sur plusieurs années en termes de perspective. C'est vraiment la partie la plus compliquée en termes de recherche, parce qu'on a un virus qui mute énormément et c'est difficile de trouver un vaccin pour le moment.
On a beaucoup parlé des chiffres France, mais c'est vrai que si on s'ouvre sur le monde et qu'on regarde de manière un peu plus globale, dans le monde, il y a 36,7 millions de personnes qui vivent aujourd'hui avec le VIH. Ça fait combien de morts chaque année dans le monde, le VIH, le sida?
Alors aujourd'hui, on a encore plus d'un million de décès par an. On a 2 millions de nouvelles infections, et notamment beaucoup de jeunes femmes, beaucoup de jeunes filles de par le monde. Donc ça, c'est vraiment encore des chiffres qui nous inquiètent. Bien sûr, ils ont baissé hein, par rapport aux années 90, mais on reste sur des contaminations encore trop importantes et un nombre de décès encore trop important, ce qui montre le manque d'accès aux médicaments dans beaucoup de pays.
Ouais, depuis le début de l'épidémie, ça fait 35 millions de morts dans le monde, hein, le sida.
Oui, tout à fait.
Et une personne sur deux qui n'a pas accès au traitement. Donc en France, là-dessus, on a un peu plus de chances que certains. Ouais. 03 26 50 81 81. On va parler des femmes qui peuvent être enceintes malgré le fait d'être porteuses du VIH. Là aussi, c'est une avancée de la science. Corinne Dépernay, par exemple, nous dit: une femme séropositive peut-elle être enceinte sans risque de contamination pour l'enfant?
Oui, tout à fait. Là, c'est un vrai progrès et qu'on a depuis plusieurs années déjà. Une femme qui est séropositive et qui souhaite avoir un enfant. Aujourd'hui, on a plus de naissances de bébés séropositifs. Hein. Une personne est mise sous traitement, elle est suivie pendant l'accouchement et ensuite après l'accouchement. Donc ça, c'est vraiment important de le rappeler. Une mère séropositive peut avoir des enfants séronégatifs sans aucun risque, sans aucun problème. Et même dans les programmes qu'on soutient, nous, à SIDAction en Afrique subsaharienne, on a exactement les mêmes résultats pour les mamans qui sont sous traitement.
Et un papa qui est séropositif, peut-il être papa sans risque pour l'enfant ?
Tout à fait, oui, pareil. On a à la fois pour les couples qui le désirent, donc qui sont soit tous les deux séropositifs, soit l'un des deux, notamment le papa, il y a des techniques qui permettent effectivement de pouvoir concevoir sans risque de contamination du partenaire et sans risque de contamination du bébé. Et comme on le disait tout à l'heure, en plus, quand vous êtes sous traitement, vous ne pouvez plus contaminer votre partenaire. Donc on est vraiment sur un vrai progrès sur cet aspect-là.
D'où l'intérêt de se faire dépister. On rappelle les centres de dépistage gratuits dans la région à Reims, Épernay, Sainte-Menoux, Chalon, Troyes, Charleville, Fumay, Sedan, Chaumont, Saint-Dizier, Langres. Ça s'appelle les Cégides. Et puis, c'est possible aussi sur prescription par votre médecin généraliste, une simple prise de sang. Puis, il y a les autotests aussi, disponibles en pharmacie. Ils ne sont pas remboursés, mais le résultat est instantané et il coûte 25 euros. Vous-même, Florence, vous êtes porteuse du VIH. Comment vous avez été contaminée ?
Alors, moi, j'ai été contaminée au cours d'un rapport sexuel non protégé. Je faisais partie des personnes qui pensaient qu'effectivement, à l'époque, il y a un peu plus de 20 ans, que ça n'arrivait qu'aux autres. Et voilà, quand j'ai fait un test de dépistage, le médecin m'avait dit que je n'avais pas le profil. Et pourtant, j'ai malheureusement démontré que ça n'arrivait pas qu'aux autres.
Et il y a de la discrimination aussi par rapport aux personnes porteuses. De quoi souffrent en général, de quelle discrimination souffrent en général les personnes porteuses du VIH?
Alors, des rapports ont été faits sur ces questions-là. Hein. On fait face encore à des situations de discrimination dans le milieu professionnel, dans le milieu de la santé aussi. Hein. J'ai été moi-même confrontée, par exemple, à un refus de soins chez un dentiste, alors qui bien sûr n'est pas un refus de soins direct. Hein. On vous dit que, alors que vous avez un souci aux dents, on vous dit que finalement il n'y a pas de problème et que on va pas vous soigner parce qu'il n'y a pas de problème. Et effectivement, c'est assez déstabilisant de voir que encore aujourd'hui, on se retrouve face à la discrimination ou de la peur hein, qui revient des personnes séropositives parce que malheureusement on en parle moins.
Pareil pour le milieu bancaire ou pour les rencontres amoureuses, c'est peut-être ça en décourage peut-être certains quand ils l'apprennent.
Alors oui, alors en tout cas pour les aspects bancaires, effectivement, avoir accès à un prêt bancaire, ça reste encore très compliqué, voire impossible pour les personnes séropositives, même si on espère quelques améliorations de ce côté. Et puis là, sur la vie amoureuse, effectivement, comme dans le sondage, on a effectivement un quart des Français qui pensent que même avec un préservatif, on peut être contaminé par le VIH en ayant un rapport sexuel avec une personne séropositive. Ça montre que les peurs sont encore là.
On rappelle ces chiffres, hein, 150 000 personnes qui vivent avec le VIH en France, dont 25 000 qui l'ignorent. Et parmi les nouveaux contaminés, les 6 000 nouvelles infections chaque année, il y a 20% de plus de 50 ans, d'où l'importance d'en parler et d'où l'importance de cette émission, du SIDAction aussi, qui a lieu ce week-end, on le rappelle. Il est possible de faire des dons pour le SIDAction. Alors, quels sont les moyens pour faire des dons ?
Alors vous avez plusieurs moyens, donc le premier c'est d'appeler le 110, effectivement vous pouvez faire une promesse de don, vous pouvez aller aussi sur le site de SIDAction, sidaction.org, donc ça c'est vraiment des moyens qui sont les plus faciles, et vous pouvez aussi envoyer un don par SMS en faisant don au 92 110, qui est un don de 5 euros, mais vous pouvez aussi appeler le 110 directement, ça va presque plus vite.
Et à quoi ça va servir cet argent ?
Alors, ces dons nous permettent à la fois de continuer à financer la recherche. Hein, pour rappel, SIDAction est la seule structure privée associative qui finance la recherche en France, donc de poursuivre nos efforts en matière de recherche, et puis de financer des associations en France et en Afrique subsaharienne, en Europe de l'Est, qui accompagnent les personnes vivant avec le VIH, qui les aident à dépasser cette maladie et aller plus loin, continuer leur vie.
Et France Bleu est partenaire du SIDAction, comme tout le groupe Radio France et France Télévisions. Merci Florence Thune pour cette émission et d'avoir répondu aux nombreuses questions. À bientôt.
Merci
sur
à
France
vous.
Bleu.
À bientôt.
Les experts à réécouter en podcast sur francebleu.fr.